Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello, hello les amis, ici Pauline Léniaud et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode du Gratin. Comme à chaque fois avec le Gratin, mon objectif est vraiment de vous faire découvrir ou redécouvrir des personnalités remarquables, toutes plus remarquables les unes que les autres, leurs moments de doute, leurs grandes décisions, leurs réflexions, afin de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Avant de vous parler de mon invité du jour, une fois n'est pas coutume, j'ai un petit service à vous demander. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait ici sur le podcast, donc j'en profite pour ceux qui ne l'aurait pas fait, laissez-moi, s'il vous plaît, ça me ferait tellement plaisir. Un avis sur le podcast, je les lis, ces avis, je les adore, c'est ma petite piqûre de bonheur du matin quand je suis fatiguée, donc n'hésitez pas à le faire, à me laisser un avis sur iTunes, ça me ferait immensément plaisir et en plus ça compte parce que c'est aussi comme ça que j'arrive à avoir des invités aussi intéressants que Patrick Légeron. Alors justement, parlons de Patrick. Si vous souhaitez le retrouver d'abord ou lui demander d'être conférencier peut-être pour une de vos entreprises, eh bien foncez lui dire directement sur LinkedIn où il est présent. Je vous mettrai le lien vers sa bio dans l'épisode. Qui est donc Patrick, le professeur Patrick Légeron ? Docteur en médecine, psychiatre et titulaire d'un post-doctorat à l'Université de Californie, Patrick Légeron, c'est tout simplement la sommité sur le thème de la santé psychologique au travail en France. À tel point d'ailleurs qu'il divise aujourd'hui son temps entre deux activités, celle d'homme de terrain en tant que psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris et celle d'entrepreneur puisqu'il a également créé le cabinet Stimulus qui a pour vocation d'aider les entreprises ou managers à prévenir les risques psychosociaux dans l'entreprise. Le stress au travail, l'anxiété, le fameux burn-out ou épuisement comme on dit en français sont devenus des mots fourre-tout, je trouve, qu'on entend les médias utiliser à tort et à travers avec parfois, il faut le dire, assez peu de discernement. C'est pourquoi j'ai voulu demander à l'une des personnes référentes dans le domaine de nous expliquer ces termes, leurs tenants, leurs aboutissants et leur cure aussi. Le résultat est bien évidemment passionnant et je tenais vraiment à remercier Patrick pour sa gentillesse et son souci de garder toujours des explications simples et accessibles, même pour des personnes qui sont néophytes comme moi. L'épisode est un peu plus long de coutume, vous verrez, mais je vous conseille vraiment de l'écouter jusqu'au bout parce que Patrick nous livre sur la fin un moment d'une très belle sincérité. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec le professeur Patrick Légeron. Bonjour Patrick.
Bonjour Pauline.
Je suis ravie de vous accueillir sur le podcast, sur le Gratin. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avant de rentrer dans le sujet du stress, de l'anxiété, où on peut se dire que c'est parfois des sujets un petit peu douloureux, je voulais commencer par parler de votre parcours, Patrick, comprendre qu'est-ce qui a suscité votre vocation, où est-ce que vous êtes né, comprendre votre enfance. Donc, est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, commencer par le commencement? Et que vous me disiez, Patrick, mon cher Patrick, quels ont été vos débuts? Où est-ce que vous êtes né? Comment a été votre enfance, d'une certaine manière?
Écoutez, je suis né dans la ville où a été brûlée Jeanne d'Arc, à Rouen. Je suis resté pas très longtemps parce que mon père était fonctionnaire, donc on a beaucoup bougé. Ensuite, on a habité au bord de la mer. J'ai très bon souvenir, c'était Saint-Valery-en-Caux, une plage de galets. On se faisait beaucoup mal aux pieds en allant se baigner dans la mer. Ah. Et puis ensuite, mon père a beaucoup voyagé de par son métier. On s'est retrouvé à Orléans. Et il a fini sa carrière à Nantes où j'ai passé mes études de médecine. En plein mai 68, donc j'ai des souvenirs assez intéressants de la médecine en pleine révolution. J'étais d'ailleurs un peu militant puisque j'étais le représentant de la faculté de médecine aux états généraux de la Sorbonne en 68. Donc je ne jetais pas des pavés sur les CRS, mais j'étais un peu contestataire dans un environnement médical qui était encore les mandarins. Enfin, ça a un petit peu changé, mais il a fallu un peu mai 68 pour bouleverser ça. Donc j'ai fait toutes mes études de médecine. Mais pour revenir un peu en arrière, vous parlez de vocation. En fait, cette vocation, je ne l'ai pas eue du tout, puisque en fait, j'étais un matheux. J'ai fait passer un bac scientifique, en plus avec grec ancien. Ah. Ça a beaucoup perturbé le lycée de Nantes où j'ai passé mon bac, puisque c'était le lycée Clémenceau, parce que les scientifiques avec le grec ancien, j'étais le seul à passer cette option. Et je me suis inscrit après le bac pour faire maths sup, etc. Je me suis dit, je vais faire une école d'ingénieur ou je sais pas quoi, une grande école, puisque les maths me passionnaient, enfin tout ce qui était scientifique. Et puis je me suis retrouvé comme ça en septembre à la rentrée des lycées, puisque les écoles préparatoires ont lieu dans les lycées. Je me suis retrouvé à nouveau comme potage dans un lycée. J'ai dit, j'en peux plus. Et je voyais mes copains qui s'étaient inscrits en fac. C'était formidable. Ils disaient, on a des cours, on y va quand on veut. Alors, je me suis dit, faut que j'aille à la fac. C'est l'époque où il n'y avait pas trop de difficultés. Alors, je vais à la fac. J'ai dit, fais fac de droit. J'ai fac de droit. On dit, ah non, les inscriptions sont terminées. Je dis, je vais frapper à la fac de médecine. Il dit, c'est ouvert. J'y vais. Vous voyez, la vocation, elle est quand même assez tardive. Donc, j'ai fait médecine comme ça. Et puis, la médecine me passionnait, mais la psychologie. Donc, je suivais des cours de psychologie. Alors, tout naturellement, j'en suis arrivé à faire une discipline qui, j'allais dire, conjugue un peu les sciences humaines et les sciences médicales, c'est-à-dire la psychiatrie. Donc, mes études de médecine et le début de ma psychiatrie ont été faits à Nantes. J'ai passé les concours parisiens d'internat. J'étais reçu à Paris. Et je découvrais Paris. J'étais un petit provincial qui ne rêvait que d'une chose, d'aller à Paris. Je suppose que je ne suis pas le seul. J'en avais marre de la province. Quoique, quand je reviens à Nantes maintenant, je me dis, c'est une ville agréable, parce que ça a beaucoup changé. Je me souviens d'avoir révisé mes examens de médecine, qui sont quand même très durs, hein, sur la plage de la Baule. Ça, c'est des choses que les petits Parisiens ne font pas beaucoup. Donc, c'était très sympathique. Et donc, j'ai passé ces concours. Je suis arrivé à Paris et j'ai découvert, évidemment, dans l'univers de la psychiatrie, des choses passionnantes, des choses étonnante, puisque j'ai eu, j'allais dire, la chance, je sais pas si c'est la chance, en tout cas l'opportunité de commencer ma psychiatrie dans le service où Monsieur Jacques Lacan officiait. C'est très intéressant parce que c'est des souvenirs qui m'ont beaucoup perturbé à une époque, parce que Monsieur Lacan est une star, ça l'est encore plus ou moins, et dans ces années 70, fin des années 70, il tenait des conférences où on se bousculait dans le service de psychiatrie où j'étais, à l'hôpital Sainte-Anne. Et il tenait des propos que je ne comprenais absolument pas. Je regardais mes confrères, mes jeunes internes en psychiatrie, qui hochaient la tête d'un air entendu. Je dis, je dois être débile. Alors moi aussi, je hochais la tête pour montrer, évidemment, que je comprenais tout ce qu'il dit. Je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. Et jusqu'au jour où finalement, des psychiatres américains, puisqu'ensuite j'ai eu une bourse de recherche aux États-Unis qui m'ont permis de découvrir une autre psychiatrie. Ils m'ont expliqué que Lacan, c'était du vide.
Bah, d'ailleurs, si personne ne comprenait rien, je pense.
Ouais, et que c'est un imposteur. Et je me souvenais d'un conte que j'ai d'Andersen qui m'est beaucoup plu, qui s'appelait Les habits neufs de l'empereur. Et Les habits neufs de l'empereur, qui est un superbe conte d'Andersen, n'a pas écrit que La petite sirène ou des choses comme ça. C'est l'histoire d'un empereur qui veut le plus bel habit du monde. Et donc, il y a un couturier qui lui dit, je vais vous tisser un tissu extraordinaire. Mais il y a que les gens intelligents qui le voient. Les gens ne peuvent pas le voir tellement c'est beau. Et il tisse un truc et le roi, il voit rien parce que c'est un tissu. Et tout le monde dit, oh, que votre habit est beau, monsieur l'empereur. Jusqu'à temps qu'un petit garçon dise, mais le roi est nu. Parce qu'en fait, tout le monde faisait semblant de croire, puisqu'on avait dit que c'était que les gens intelligents qui pouvaient voir la richesse du tissage et que les autres y voyaient rien. Et donc, je me suis dit, mais le roi est nu. Et donc, à ce moment-là, j'ai orienté ma psychiatrie complètement différemment et je suis parti aux États-Unis où là, j'ai rencontré une psychiatrie qui n'était plus du tout philosophique, qui était plus littéraire, mais qui était très médicale, c'est-à-dire les maladies mentales étaient abordées comme les autres maladies, avec des symptômes, avec des traitements, des évaluations, on voyait ce qui marche et ce qui marche pas. C'est-à-dire, il y avait des études contrôlées, des groupes contrôles, donc on testait à la fois les psychothérapies et des choses, et je me suis orienté vers plus ce qu'on appelle les approches cognitives ou les approches cognitivo-comportementales, et j'ai abandonné. Donc la psychiatrie à Paris m'avait complètement perturbé, puisque je me disais, mais je ne comprendrai jamais du tout ce voilà. Et puis j'ai commencé une psychiatrie, alors aux États-Unis, avec un choc culturel fondamental. Imaginez la fin des années 70, début des années 80, Los Angeles, LA, la cité des anges. un campus qui ressemblait pas à celui de Jussieu ni à celui de Paris, complètement tagué, des réfectoires moches où on mange mal, dans les palmiers, des grands espaces. Mon professeur de psychiatrie m'a demandé de l'appeler Bob tout de suite. J'ai sursauté.
Oui, ça devait pas être le cas de Jacques Lacan.
Et puis mon patron de psychiatrie à Paris, qui était un grand nom, il était président de l'Association mondiale de psychiatrie, le professeur Pichot, qui est décédé depuis pas très longtemps. Mais je me souviens qu'il fallait prendre rendez-vous avec lui. Quand on arrivait, c'était monsieur le professeur. Il avait son nœud papillon, enfin le mandarin typique. Et Bob, justement, mon professeur de psychiatrie, qui était un grand nom de la psychiatrie nord-américaine, venait faire ses cours en Bermuda. Enfin, le choc était complet. Je peux vous dire, et le choc aussi de ma discipline, parce que là, j'avais une psychiatrie très médicale, très scientifique, travaillant sur les neurosciences, et non pas sur le discours du discours, l'inconscient freudien, tout ça. Et donc, ça m'a beaucoup marqué, je suis resté pas mal de temps aux États-Unis, avec une belle bourse que m'avait donnée la Fondation pour la Recherche Médicale, et j'hésitais à revenir en France. J'adore la côte ouest américaine, mais bon... Quand on voit Paris, quand on voit la culture, les restaurants, le style de vie, j'ai décidé de revenir en France. Et puis, j'ai commencé ma psychiatrie tranquillement, jeune interne à Sainte-Anne, en terminant mon internat à Sainte-Anne, et nourri à la psychanalyse quand même, parce que même si Lacan m'avait un peu désarçonné, en psychanalyse, il n'y a pas que Lacan, il y a toutes les œuvres de Freud. Et là encore, deuxième choc, j'ai eu beaucoup de chocs dans ma vie, mais ça m'a beaucoup secoué. C'est que je commence à prendre en charge des patients et ça, alors je les allonge pas tous parce que le psychiatre n'allonge pas tous ses patients, c'est des fois en face à face comme avec vous. Et on discute et moi je me suis dit, ils vont me parler de leur femme, de leur maîtresse, de leur sexualité. Non, de quoi ils me parlent? De leur boulot. De leur boulot, j'avais jamais lu ça moi. Parce que pour moi, la psychiatrie, les troubles psychologiques, c'est l'inconscient, le complexe d'Édipe, etc. Ils me parlent du boulot, c'est-à-dire de leur patron, de leurs collègues, de leurs clients. Mais je me suis dit à ce moment-là, on était au fin des années 70, j'étais revenu des États-Unis, je me suis dit, mais finalement, le travail, c'est quelque chose qui impacte le psychisme humain. Autant sa sexualité freudienne, autant. Et je me suis dit, mais intéressant tout ça. Intéressant d'autant plus qu'évidemment, les patients que je voyais à l'hôpital Sainte-Anne, c'était des patients qui allaient mal, donc qui avaient craqué. Je me suis dit, mais c'est peut-être intéressant quand même d'aller en amont. C'est-à-dire d'aller sur le terrain, là où se construit justement éventuellement les troubles mentaux, la souffrance psychologique, ou au contraire, nous n'oublions jamais aussi le bien-être. Et parce qu'évidemment, on sait bien que le travail, c'est un peu, le miroir de Janus et de face, c'est-à-dire le côté bon pour la santé mentale et mauvais pour la santé mentale. Et à partir de là, c'est vrai que j'étais assez pionnier, puisque c'est quelque chose qui n'existait pas beaucoup en France. J'ai commencé à travailler sur ces aspects-là et je me suis dit, bon, ça qui m'intéresse, c'est la santé psychologique au travail. C'est qu'est-ce qui fait que dans le travail, il y a des choses qui, au contraire, au-delà de tout simplement vous donner un salaire, vous donner un statut social, mais construit votre bien-être psychologique. On a besoin du travail, de s'investir dans quelque chose qui vous construit, au-delà quelque chose qui vous fait vivre par un revenu. Pourquoi c'est quelque chose qui, progressivement, peut détruire le psychisme humain et faire rentrer les gens dans des grandes souffrances. Et déjà, à l'époque, on n'en parlait pas autant que maintenant, hein. Je vous dis, on est début des années 80. Tous les termes dont on parle beaucoup, le stress, le burn-out, les risques psychosociaux, la souffrance, l'épuisement, on n'en parlait pas beaucoup, mais déjà, on commençait à voir des choses et donc, je me suis spécialisé donc assez vite. C'est maintenant quasiment 40 ans que je suis spécialiste, j'allais dire, de ce qu'on peut appeler la santé psychologique au travail, la santé mentale au travail.
J'ai 1000 questions pour vous, Patrick.
J'espère
J'ai
bien.
J'ai 1000 questions pour vous. C'est fascinant. Alors déjà, peut-être pour quelqu'un de néophyte comme moi, est-ce que vous pourriez m'expliquer qu'est-ce que c'est justement que la thérapie comportementale et cognitive?
Vous savez, en simplifiant au maximum, mais moi j'aime bien la pensée des anglo-saxons. C'est ce que j'ai appris, c'est qu'ils simplifient. L'intelligence anglo-saxonne, c'est dire, vous savez, c'est 1, 2, 3. L'intelligence française, c'est de prendre un grand tableau et de mettre des flèches dans tous les sens. Et oh là, c'est plus compliqué que vous n'imaginez. Donc, moi, je simplifie.
Je vous rejoins.
Je simplifie. Et ce qui est bien, c'est que je cite souvent dans cette démarche d'esprit Paul Valéry, qui, tout le monde sait, n'est pas un Yankee. Et Paul Valéry disait, ce qui est simple est faux, mais ce qui ne l'est pas est inutilisable. Donc je trouve que le pragmatisme nord-américain, on dit souvent les Américains sont un peu simplis, etc. Enfin, ils ont quand même tous les prix Nobel, n'oublions pas. Mais c'est parce qu'ils ont une pensée très simplificatrice. Et c'est vrai que la simplification est réductrice, mais qu'en même temps, elle est pragmatique et permet d'agir. Parce que la complexité du chaos cosmique, etc., intellectuellement, ça nourrit l'esprit, mais qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Voilà, alors... En simplifiant,
la
psychiatrie est traversée par plein de courants, c'est sa richesse. Disons qu'il y a trois gros courants. Alors, je les cite pas dans un ordre d'importance, mais un courant très ancien, qui est le courant psychanalytique et psychodynamique, c'est-à-dire que finalement, l'individu se construit, des fois même, pour certains tenants de la psychanalyse, dès le fœtus. Dans une relation à l'autre, en particulier une relation avec les parents, à travers des mécanismes comme le transfert, le complexe d'Édipe, des choses comme ça. C'est-à-dire que on construit à travers des pulsions, on construit comme ça sa personnalité et des événements de vie peuvent bien sûr un petit peu progressivement les modifier. Mais ça, c'est la première théorie. Autant vous dire que les trois théories se complètent, même si elles sont très différentes. La deuxième théorie, c'est une théorie beaucoup plus moderne, qui est très alimentée par la recherche contemporaine, c'est celle des neurosciences. C'est-à-dire que la maladie mentale, c'est un peu comme une maladie cardiaque, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des hormones qui dérapent, des tumeurs ou des fonctionnements. Après tout, le cerveau et la recherche en neurosciences, l'imagerie cérébrale nous montre qu'on peut avoir des anomalies. Et c'est intéressant de voir que des pathologies et des maladies mentales qui pendant longtemps étaient considérées comme des troubles de la relation de l'enfant avec la mère, comme par exemple l'autisme, eh bien maintenant sont rentrées quasiment comme une maladie génétique avec une perturbation du fonctionnement du cerveau, comme on peut avoir une perturbation du fonctionnement du foie ou des reins, etc. Ça, c'est la deuxième théorie. Et puis, une troisième théorie qui vous explique, et ça, c'est les théories plus comportementales et cognitives, c'est-à-dire que, finalement, notre savoir-faire s'acquiert progressivement par des apprentissages successifs, c'est-à-dire des conditionnements, des apprentissages, des expériences, et nous apprenons à, par exemple, avoir des modes de raisonnement dépressifs ou des modes de raisonnement au contraire optimistes. Nous apprenons à avoir des rituels quand on a un trouble obsessionnel ou des phobies par apprentissage. Ce sont des théories, autant les premières analytiques, c'est des théories, j'allais dire, de l'inconscient. Les neurosciences, c'est des théories de l'organe cerveau. Et là, c'est des théories de l'apprentissage. Et donc, voilà. Donc on conçoit évidemment que les solutions sont différentes. La psychanalyse, c'est en effet de revivre des instants à travers le transfert, la cure psychanalytique. Les neurosciences, c'est plutôt basé sur les médicaments. La psychopharmacologie qui agit sur les substances du cerveau. Et puis la troisième, c'est plutôt des réapprendre des modes de fonctionnement. Et donc, les TCC, dont je suis un partisan, enfin, on appelle ça les TCC, je suis un TCCiste, les thérapies comportementales et cognitives, ce sont des thérapies de hic et nunc, c'est-à-dire du ici et maintenant, c'est-à-dire qu'on va pas passer des années, même si c'est intéressant de le savoir un peu, de son histoire, mais on va toujours se dire, bon, le problème, il est comme ça actuellement, l'explication causale peut être intéressante, mais qu'est-ce qu'on fait pour sortir? Et souvent, j'utilise une analogie qui est un peu brutale, c'est par exemple, si vous êtes ruiné, si d'un seul coup, vous n'avez plus d'argent, si vous passez 10 ans à essayer de comprendre et vous dites, bah, ça y est, j'ai compris pourquoi j'ai plus d'argent. Ça y est, j'ai compris. Est-ce que vous réveillez le lendemain riche? Il vaut mieux dire, vous n'avez plus d'argent, ou expliquez-moi où vous en êtes et on va voir comment reconstruire. Donc, c'est des thérapies un peu plus du présent. Alors, c'est des thérapies qui, en tant que scientifique, puisque c'est, moi, je suis vraiment la science pour moi, même si elle a beaucoup de défauts, est quand même ma boussole de référence, la connaissance scientifique, les lumières, le siècle des Lumières, c'est qu'à travers toutes les grandes études à travers le monde, pas simplement en France, mais à travers le monde, quand on essaye de voir, en faisant des groupes contrôle, de comparaison, quand, par exemple, quand on a une dépression, quand on a une phobie importante, des attaques de panique, quand on a un trouble des conduites alimentaires, une boulimie, enfin, tous ces problèmes, qu'est-ce qui marche et qui ne marche pas? Bon, les TCC arrivent largement en tête. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans les pays très pragmatiques comme les États-Unis, etc. Alors évidemment, si vous lisez un jour un livre de vulgarisation des TCC, vous direz pas c'est formidable, je quitte plus ce livre de mon chevet. En revanche, si vous lisez les œuvres de Freud, c'est passionnant.
Oui, c'est brillant.
Donc évidemment, c'est moins sexy, si j'ose dire, mais c'est plus pragmatique, voilà.
Qu'est-ce qui fait donc que vous avez choisi justement de vous orienter vers les TCC, que vous êtes devenu TCCiste? Parce que c'était avant que vous alliez aux États-Unis.
C'est deux chocs. Le premier choc, je l'ai cité, c'est le fait que j'étais perdu avec les approches lacaniennes et que j'avais faim, d'être nourri un peu de science derrière tout ça. Il n'y a pas de science. Et on racontait des cas. Mais la science, c'est pas de raconter un cas, c'est de dire, bon, bah, sur 20 patients, ou 30, ou 100, comparé à 100. Donc, il y avait pas tout ça. Ça, c'est la première chose. Et puis, quand je suis arrivé aux États-Unis, puisque ma sœur était journaliste pour Antenne 2 à l'époque, c'est-à-dire France 2 maintenant, elle était au bureau de Los Angeles, elle me disait chaque année, viens me voir, passe tes vacances aux États-Unis. Pour moi, les États-Unis, j'en ai absolument pas envie, je préfère aller visiter l'Asie ou l'Amérique latine. Enfin, pour moi, les États-Unis n'étaient pas quelque chose qui me séduisait énormément. Bon, je vais dire, je vais passer l'été avec toi. Ok. Et puis j'en profite quand je vais là-bas. Des psychiatres me disent, bah, si tu vas là-bas, va visiter quand même un service américain de psychiatrie. Donc j'arrive là-bas, je rencontre ce professeur qui ensuite sera mon patron en Bermuda, que j'appelais Bob. Et il me fait visiter et puis il me dit, bah, si ça vous, enfin, ça aurait été en français, m'aurait tutoyé, oui. Mais enfin, c'est le vous là-bas. Si ça vous intéresse, trouvez une bourse de recherche et venez là-bas, et venez. Et quand j'étais arrivé là-bas, j'ai trouvé une psychiatrie, extrêmement pragmatique, c'est-à-dire dans lequel il y avait de la science. Et c'est marrant parce que j'ai un souvenir très marquant de cette comparaison à la fois du style de vie, du style de relation avec son patron, c'était mon patron, qui était plus simple, de l'environnement plus agréable pour les étudiants, on souffrait pas là, les étudiants. Et je me souviens que mon premier patient aux États-Unis qui me montre, c'est un schizophrène. C'est une maladie psychiatrique très particulière, un peu complexe. Ce sont des jeunes repliés sur eux-mêmes, communiquent pas. Enfin, la schizophrénie est une pathologie compliquée, puis il y a plusieurs formes. En tout cas, il me dit, tiens, Patrick, tu vois, ça, c'est un schizophrène schizoïde. Terme très technique. Je dis, ah bon? Je dis, mais pourquoi? Alors, il me dit, bah, tiens, regarde, il y a toute une liste de critères. Par exemple, s'isole facilement. Lorsqu'il entend un bruit, ne détourne pas la tête. Enfin, il me fait toute une checklist et il me dit voilà. Et quand il y a 8 points sur ces 12 qui sont présents, le diagnostic est posé. C'est ce qu'on appelle les critères diagnostiques. C'était très comme ça. Il me disait voilà. En revanche, il faut pas qu'il ait ça. C'est-à-dire, il faut pas non plus qu'il soit dépressif. Non, il est pas dépressif. Donc, il y avait des critères positifs et négatifs. Et c'est à partir de critères extrêmement précis qu'on posait un diagnostic. Et là, le choc a été brutal parce que je me souviens avoir posé la même question à mon patron en France. J'avais dit, mais à quoi vous voyez que c'est un schizophrène? Et il m'avait répondu, je le sens. C'est-à-dire cette espèce d'intuition, de subjectivité. Et moi, ce que j'ai aimé dans la psychiatrie scientifique, celle qui maintenant, depuis les années 80, c'est quand même largement répandue dans le monde, qui est la psychiatrie universitaire. Maintenant, vous allez en psychiatrie, dans les grands services de psychiatrie universitaire français, c'est comme ça. C'est qu'on est dans une approche extrêmement rigoureuse et scientifique. C'est-à-dire, des pathologies un peu subjectives, on les objective à travers des questionnaires de cotation, des choses extrêmement sérieuses. C'est-à-dire, on a fait rentrer la psychiatrie dans de la science au sens de l'évaluation, de la quantification, de la rigueur, etc. Et donc, les TCC, j'ai retrouvé dans les TCC cette approche. C'est une approche d'abord de psychologie évaluative. Bon, il y a beaucoup de dimensions, de questionnaires, d'évaluation, de validation, de recherche, puisque donc c'est la psychiatrie scientifique. Alors, je comprends le débat. Parce que beaucoup de mes confrères psychiatres, qui ne sont pas de mon courant, mais avec qui je m'entends très bien, parce que justement, la richesse de la confrontation est formidable, me disent, oui, mais peut-on faire entrer le psychisme humain dans le moule de la rigueur scientifique? Et je dis, oui, c'est vrai. Mais moi, ça fait longtemps que j'ai abandonné la posture d'un philosophe. Je vois bien l'hôpital, moi je suis un soignant. Et finalement, ce que demandent les patients, c'est d'aller mieux, c'est de plus avoir leur rituel, de plus avoir leur crise d'angoisse, et que cette espèce d'obsession, j'utilise le mot volontairement, d'obsession de guérir les gens est important. Alors, c'est peut-être un peu désastreux parce que on peut souffrir en tant que psychiatre, mais je me souviens d'un article qui avait été méchant sur les TCC, parce qu'il y a eu beaucoup d'articles de presse méchants. Ça s'est un peu calmé, mais dans les années 80, 90, il y avait beaucoup d'articles méchants. Et je me souviens d'un article dans Libération qui avait une méchanceté absolue. Ils avaient marqué « Ces psychiatres qui ont la rage de guérir ». Et j'ai pas compris où était la critique derrière là. Parce qu'on dirait un cardiologue qui a la rage de guérir votre infarctus. Donc il y avait, c'est-à-dire qu'on était obsédé par la guérison. Et c'est vrai que des gens comme Lacan, déjà, ça me déstabilisait beaucoup. Déjà, disait à l'époque, et Freud aussi d'ailleurs, il disait, la guérison viendra de surcroît. C'est-à-dire, l'objectif, c'est pas guérir. C'est-à-dire, la guérison arrivera comme ça. Alors que j'ai toujours pensé que mon rôle était vraiment de guérir les patients. C'est-à-dire qu'ils viennent, et on a heureusement des satisfactions, c'est qu'ils vous disent « Merci docteur, je peux remonter dans les trains sans crise d'angoisse. Merci docteur, j'ai plus d'idée de suicide. Merci docteur, je passe plus 20 ans à laver les poignées de porte quand on a un TOC. » Enfin, et voilà, c'est ça. Et cette notion de guérison me va très bien dans la psychiatrie. Mais je comprends un questionnement... J'étais nourri au début, vous savez, les années 70, c'est des années extrêmement vivaces au niveau intellectuel, puisqu'il y avait Lacan, il y avait mai 68, il y avait aussi l'antipsychiatrie, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, l'antipsychiatrie, Basaglia, il y avait des films aussi là-dessus. Et l'antipsychiatrie avait été quelque chose d'intéressant intellectuellement, c'est-à-dire que le monde est fou. Le monde est fou. Moi, qu'on vous ferait le même diagnostic encore aujourd'hui. Et les gens qui sont malades, mentaux, sont évidemment des gens bien. Parce que être bon, bien portant dans un monde de fous, c'est délirant. Encore, être malade dans un monde de fous, c'est que vous avez la raison. Donc, en fait, le malade mental était réhabilité comme finalement la personne normale. Donc, il fallait pas les guérir. C'est la société qu'il fallait guérir, etc. Et c'est pas inintéressant intellectuellement, c'est sûr. C'est pas inintéressant. Et pour le burn-out, dont je suis devenu un spécialiste, la question est là. Est-ce qu'il faut soigner les gens ou est-ce qu'il faut soigner le travail. C'est ça aussi la question qui se pose. Mais il y avait cette effervescence, et alors j'ai pris un camp. Donc je pense que les gens ont besoin. Vous savez, moi ce qui me frappe le plus dans la maladie mentale, c'est que la maladie mentale, c'est quelque chose évidemment d'un fonctionnement psychologique très particulier par rapport aux gens qu'on dit normaux. Mais ce qui me frappe le plus, c'est quand même leur souffrance. Parce que si à délirer, à être comme ça, vous vous sentiez bien, mais c'est de la souffrance, ces gens-là, ils souffrent. Et donc, c'est quand même un des critères importants. Et notre rôle, c'est quand même d'alléger la souffrance, quand même.
Justement, une question que je voulais vous poser, Patrick, c'est est-ce qu'il y a un cas dont vous pourriez me parler? Pas nécessairement un cas de burn-out, pas nécessairement un cas justement lié au stress, au monde du travail, qui vous a particulièrement marqué, peut-être que vous avez réussi à soigner, justement, quand je dis un cas, donc un cas clinique avec un patient, d'une souffrance qui vous a laissé un souvenir très fort que vous accepteriez de partager avec nous. Pour qu'on comprenne, mon objectif, c'est qu'on comprenne en fait votre métier et peut-être qu'on comprenne aussi avec des mots peut-être simples, comment vous aidez des personnes qui sont dans ces situations de souffrance?
Alors j'ai deux métiers en fait qui rejoignent le même thème, c'est-à-dire que j'ai une partie de mon activité qui est à l'hôpital Sainte-Anne, service universitaire de psychiatrie du centre hospitalier Sainte-Anne, qui est quand même un service de psychiatrie, donc dans l'image des gens, c'est les gens qui vont mal quand même. C'est pas simplement aller consulter un psychologue parce qu'on a un mal-être. Oui, j'ose pas utiliser le mot fou parce que c'est un mot très stigmatisant et c'est des gens comme vous et moi. Enfin, moi, je suis pas sur les délirants, ceux qui se prennent, qui entendent des voix. Je suis sur des gens qui, comme vous, comme moi, 6 mois avant ou 1 an avant, je veux dire, n'envisageaient même pas d'avoir aller là. Donc, je travaille là et je travaille aussi dans les entreprises, c'est-à-dire à essayer de voir un peu comment l'organisation du travail, comment le management, comment la manière dont le travail est demandé d'être fait aux personnes, que ce soit d'ailleurs des salariés, des employés, des cadres, des managers ou même des dirigeants. Donc j'ai un travail... Alors, pour revenir à cette partie, j'allais dire, la plus tardive, c'est-à-dire lorsque la maladie a frappé, j'ai été amené à rencontrer, évidemment, énormément de personnes. Et il y a beaucoup de cas qui se ressemblent, il y a une certaine similitude de cas. Bon, vous demandez, je pense en effet à quelqu'un, mais ça pourrait être une autre personne, parce que c'est pas exceptionnel le cas que je vais vous raconter. C'est en effet un cadre bancaire, qui a fait une grande école de commerce, qui a 40 ans, 45 ans, a accédé à des très grandes responsabilités dans un grand groupe bancaire, à l'international, etc. Et qui, ça c'est l'histoire qu'il m'a racontée, qui a commencé un petit peu à avoir de plus en plus de responsabilités. Et il les a pris avec le plus grand plaisir. Parce qu'il a développé, en effet, une espèce d'addiction, de plaisir à travailler, parce que il avait un métier intéressant. Et il s'est investi de plus en plus, avec beaucoup de signes qui apparaissaient. À peu près dans les 6 mois précédant son épuisement et son cas de burn-out qui a nécessité d'ailleurs une hospitalisation, dans les 6 mois précédents, il a commencé à ressentir énormément de choses. Des signes physiques variés, digérer mal, des pannes sexuelles. À 45 ans, il s'est précipité chez un sexologue en disant « qu'est-ce qui se passe ?» Et en effet, toutes les manifestations physiques qu'il avait, c'était évidemment un stress beaucoup trop élevé. Au niveau relationnel, émotionnel, il est devenu impatient, il supportait plus rien quand les choses se passaient mal, et il se mettait en colère facilement, il dormait mal, etc. Il a commencé à prendre un petit whisky le soir, des trucs comme ça. Donc progressivement, s'est construit ça. Et quand je l'ai vu arriver, il m'a expliqué que, comprenant un petit peu qu'il n'arrivait plus tellement à faire face à toutes ses obligations, au lieu de freiner la machine qui était emballée, il a commencé à remettre un coup d'accélérateur, c'est-à-dire qu'il a retravaillé encore plus, il a emmené plus de dossiers chez lui, etc., etc. Jusqu'au jour, il a craqué. 2 ans d'arrêt.
2 ans d'arrêt.
2 ans d'arrêt. Et progressivement, il se reconstruit. Il se reconstruit avec l'arrêt de travail, avec des traitements médicamenteux. Il faut souvent des antidépresseurs. Tout le monde connaît le Prozac ou le Deroxate. Et une psychothérapie pour reconstruire les émotions. N'oublions jamais que le mot burn-out, dont la traduction française est très compliquée, parce que c'est plus qu'un épuisement, c'est aussi un cramage, si on peut dire, le mot burn, des émotions, il n'y a plus rien. Vous savez, ce qui est intéressant dans le burn-out, il y a eu beaucoup d'images, c'est un peu comme, vous savez, ces grands immeubles haussmanniens qu'on voit dans Paris, la façade est magnifique, mais on a tout détruit à l'intérieur pour reconstruire. Il n'y a plus rien, il y a une belle façade. Donc lui, la façade ouais. Et à l'intérieur, tout était brûlé. C'est la brûlure qui vient de l'intérieur et qui s'extériorise. Voilà. Donc, il fallait donc une reconstruction aussi émotionnelle, et c'est vrai que les thérapies comportementales et cognitives travaillent beaucoup sur les émotions, comment reconstruire les émotions de quelqu'un qui n'a plus rien. Vous savez, il y a une espèce de cynisme à la fin, parce que les émotions ont tellement brûlé que, par exemple, les gens ne ressentent plus rien. Moi, je vais revenir au cas de ce monsieur cadre bancaire supérieur, mais je pense à une infirmière, enfin une responsable d'infirmière dans un hôpital qui a fait un burn-out et n'a plus d'émotion. Elle me disait, je voyais les gens mourir, ça me faisait plus rien, j'étais comme une machine. La misère des gens, c'est
ouais,
du cynisme.
Vidée, quoi.
Elle est vidée, c'est pas simplement vidée en forme physique, etc. Donc lui, il a fait le reconstruire. Et ce cas est assez typique parce que je me suis beaucoup battu en lui disant, parce qu'il avait un très beau métier, un beau salaire, des beaux contacts, une belle vie sociale, parce que quand on est un cadre bancaire supérieur dans des grandes structures, il était dans des clubs, des trucs, il avait toute une vie sociale extrêmement riche, il avait des abonnements à l'opéra, enfin tous ces trucs-là. Donc il avait une vie sociale et donc mon objectif à moi, et je me suis complètement planté, mon objectif à moi c'était de le reconstruire psychologiquement, et en effet on s'en sort, hein. C'est des fois long. J'ai envie de dire aux gens, si je lance un appel, voyez quelqu'un avant d'avoir craqué complètement, parce que lui, il avait attendu le dernier moment, hein, parce que d'abord, l'idée même de craquer, lui était insupportable, parce qu'il pensait qu'il n'était pas à sa place, qu'il était un imposteur. C'est-à-dire, si je craque en faisant ce métier-là, c'est que c'est pas ma place. Je suis un imposteur. Il faut que je trompe les gens pour faire croire que je suis légitime au poste qu'on m'a confié. Donc, mon objectif, c'était de le reconstruire, c'est-à-dire qu'il aille bien psychologiquement. Et au bout de 2 ans, avant 2 ans, mais au bout d'un an et demi, déjà, ça allait mieux. Puis au bout de 2 ans, c'était bien. Et je lui ai dit, bon, bah, écoutez, maintenant, avant, je lui interdisais de l'envisager. Vous allez reprendre une vie professionnelle. Et mon objectif, c'était je lui ai dit, comme il allait mieux, on le voyait tous les 15 jours. Et au bout de 15 jours, il revient. Je lui dis donc que vous avez commencé une démarche professionnelle. Et c'est là que ça m'a complètement abattu. Non pas abattu, mais parce que je pensais qu'il me dirait oui, j'ai repris contact, j'ai retravaillé à la banque. Il m'a dit non, avec un ami, on s'associe et on vend du bio dans le 19e arrondissement. Et je me suis dit, mais oui. Je réalisais, même si je l'avais déjà lu, que ces gens-là qu'on reconstruit, on les reconstruit pas simplement psychologiquement, mais on leur rouvre d'autres voies que celles qu'il était tracées depuis qu'il avait passé ses concours de cette grande école de commerce qu'il avait mis ensuite sur les voies bancaires, etc.
Oui, il s'autorise donc, aussi autre chose.
Voilà. Et j'allais dire, il a fait ça, je vais pas dire contre mon gré, parce que je l'ai jamais obligé, mais le projet que j'avais avec lui, c'était vraiment le projet de le remettre sur les rails. Et c'était un peu un projet trop normatif. Et c'est lui, peut-être, qui m'a bien challengé en me disant, il me l'a pas dit, mais dans sa tête, il devait y avoir ça. Merci docteur, vous m'avez aidé psychologiquement, mais c'est moi qui me suis débrouillé socialement. ou professionnellement.
C'est passionnant.
Et tant mieux, parce que, vous savez, nous, psychiatres, on n'est pas là pour guider les gens dans leur vie. Parce que, évidemment, la vie des gens, leurs relations, ça joue un rôle dans le psychisme, mais n'envahissons pas tout, que les gens aient encore leur libre arbitre pour faire ça. Et finalement, le fait qu'il m'ait fait j'allais dire de manière un peu triviale, un bras d'honneur concernant sa réinsertion professionnelle et son retour à une activité. Alors, j'ai entendu des nouvelles de lui, comme ça, est heureux.
C'est le principal.
Ben oui, c'est le principal. Il gagne beaucoup moins d'argent.
Mais il est heureux.
Ben oui, ben évidemment, c'est ça.
Vous avez parlé, en parlant de ce monsieur, du fait qu'il avait craqué. Et j'ai l'impression qu'il avait craqué sérieusement, puisque vous dites que ça a duré 2 ans.
Ouais.
Moi-même, j'ai jamais vécu de burn-out, et si je suis tout à fait honnête, j'ai jamais réellement vécu le burn-out de quelqu'un que je connais suffisamment bien pour savoir quels sont les symptômes, quels sont les chimiquement ou physiquement, voilà, les choses qui se passent. Je sais que vous êtes complètement spécialiste, évidemment, de ce sujet. Est-ce que vous pourriez nous dire concrètement, voilà, c'est quoi un burn-out et comment est-ce qu'on sait qu'on est en train d'y arriver et qu'on doit justement venir vous voir ou quelqu'un de...
En fait, le burn-out, en simplifiant aujourd'hui nos connaissances, parce que c'est pas entièrement très clair, hein. Il faut reconnaître que la science, et en particulier la science médicale et psychiatrique, est encore imparfaite. On le voit bien actuellement aussi, qu'on n'a pas réponse à tout. Mais on a quand même quelques idées. C'est le processus ultime du stress. Le stress, c'est quoi? C'est une réaction normale que nous avons dès qu'on se trouve dans une situation où il y a un challenge, une contrainte, une nouveauté, un danger, etc. Là, je suis sans doute un petit peu stressé devant vous.
Ça ne se voit pas.
Voilà, l'étudiant qui passe un oral, vous avez un client important que vous devez rencontrer pour votre marché, vous avez un embouteillage et vous avez un rendez-vous, ouais, qui va vous remettre en... Enfin, tout le monde connaît le stress. Le stress, c'est normal. Ça, d'ailleurs, ça nous mobilise et c'est quelque chose de bien. C'est l'adrénaline, hein, qui est une substance utile. C'est quelque chose que nous partageons avec tous les animaux. Beaucoup d'études de compréhension du stress ont été faites sur les souris parce que elles ont le même système que nous. Elles ont les mêmes hormones, les mêmes structures biologiques, à savoir les glandes surrénales, enfin tout ça. Donc, c'est une réaction normale. Le problème du stress, c'est quand il va se chroniciser. C'est-à-dire que, au lieu d'être une fois de temps en temps, là, en sortant de chez vous, là, sauf s'il pleut trop, je serai déstressé.
J'ai l'impression d'être horrible, Patrick.
Non, il faut un peu de stress, justement. Non, c'est un peu
il
de
en
chose.
Faut.
Ça, ouais. Vous savez, c'est Sarah Bernhardt, cette grande actrice du début du XXe siècle, très connue à l'étranger. Et Sarah Bernhardt, un jour, rencontre une jeune actrice qui lui disait qu'en entrant sur scène, elle connaît pas le stress, c'est-à-dire le trac. Donc, je suis complètement, non, rien, pas de stress. Et Sarah Bernhardt lui a répliqué cette phrase qui est devenue célèbre. Rassurez-vous, cela viendra avec le talent. Et les artistes vous expliquent bien que s'ils s'entrent complètement non stressés sur scène, ils sont pas bons. C'est d'ailleurs ce que je dis souvent comme conseil à des amis qui passent le bac. Je dis, mais si le matin, t'as pas très faim, t'es un petit peu noué, c'est bon signe, parce que si t'as un appétit normal, c'est que t'es pas du tout stressé. Et quand on est stressé, quand même, ça stimule le cerveau, oui, et tout. Donc, c'est important. Donc, ça, c'est une réaction, c'est le stress normal, le stress utile, le stress inné, le stress nécessaire, etc. Mais le problème de nos sociétés et au travail, c'est que ça s'accumule. Et que ce stress devient non plus un phénomène comme ça ponctuel, mais un phénomène permanent. Et nous entrons dans une deuxième étape qui est l'hyperstress. L'hyperstress, c'est-à-dire quand tout l'organisme est entièrement en fonctionnement de stress et non pas à certains moments, un peu comme un muscle qui à certains moments se tend mais se relâche. Là, ils sont toujours en tension. Et évidemment, là, au niveau biologique, il y a beaucoup de connaissances. C'est plus seulement l'adrénaline, mais il y a d'autres hormones comme le cortisol. Et dans l'imagerie cérébrale, parce que la connaissance du stress se fait beaucoup à travers la compréhension du cerveau, on s'aperçoit qu'il y a des structures du cerveau émotionnel qui sont très modifiées, le cerveau limbique, l'amygdale. Enfin, je vais pas rentrer dans les connaissances, mais là, on entre dans un système où l'organisme est en tension permanente, sans que les gens forcément s'en rendent compte, parce que un peu comme un poisson qui est dans l'eau, il se rend pas compte qu'il est mouillé. Les gens ne se rendent pas compte parce que c'est leur mode du matin au soir. Il n'y a plus des mets en comparaison.
Mais c'est devenu un mode de fonctionnement.
C'est un mode de fonctionnement, c'est un mode d'état de l'organisme qui n'attire plus l'attention. Enfin, qui attire plus l'attention, oui et non. Parce que cette notion d'hyperstress se caractérise par beaucoup de signaux quand même. Des signaux physiques auxquels j'ai déjà fait allusion. Et c'est vrai que quand vous commencez à avoir des palpitations, des sueurs, des moments où vous respirez plus mal, où vous avez des problèmes de digestion, ou lorsque vous avez des pannes sexuelles, tous ces problèmes physiques doivent le tirer. Puis aussi beaucoup de modifications émotionnelles. Vous êtes facilement irritable, vous supportez plus grand-chose, vous inquiétez pour un détail, vous êtes des fois découragé, puis des comportements, j'allais dire, addictifs, parce que la plupart des burn-out, et le cas que je relatais, c'est quelqu'un qui s'était aussi précipité sur son petit verre de whisky, qui commençait un peu à prendre un peu trop, et puis d'autres cas, c'était le recours à d'autres substances, hein, de substances psychotropes, alors certains étant licites, prenez du Prozac, et d'autres étant moins licites, mais il y a donc il y a quand même pas mal de signes. Et ça, c'est des signes qui doivent alerter parce que vous êtes dans l'état précurseur, vous êtes dans l'antichambre. Ça ne veut pas dire que vous allez basculer, mais vous êtes dans l'antichambre. Et ça, c'est important de le faire. Et nous, psychiatres, surtout quand on travaille sur ces problèmes de burn-out professionnel, nous essayons de sensibiliser non seulement les gens, mais l'entourage. Vous savez, il y a des pays qui font des grandes campagnes. En France, c'est pas du tout le cas. Des grandes campagnes à destination des entreprises ou même de la population générale, en disant attention, quand vous avez quelqu'un de proche de chez vous qui est comme ça, vos proches qui est comme ça, il faut lui en parler parce que c'est peut-être le moment de consulter. Puis ensuite, évidemment, la bascule arrive parce que la résistance de l'organisme a certaines limites et on va craquer. Donc là, jamais quelqu'un s'est réveillé un matin en burn-out alors que la veille était bien. Autant vous pouvez être en pleine santé à un moment et une demi-heure après, vous effondrez qu'un infarctus du myocarde alors qu'avant vous allez bien. Et il y a les cardiologues racontent 100 000 histoires où ils ont vu un patient qui allait très bien. Ils ont dit non, tout va bien, vous pouvez rentrer chez vous. Et puis une demi-heure après, il avait un infarctus. Parce que ça peut se venir brutalement. Mais le burn-out, c'est jamais ça. Tous, sans exception, au moins une, deux, voire trois, voire un mois, ont eu des signes annonciateurs qui doivent attirer l'attention. Et nous, ce qui nous étonne le plus, et surtout chez les professions supérieures, pour lesquelles ces manifestations ne sont pas acceptables, sont témoins de leur faiblesse, puisque le mythe de Superman est quand même là, ou de Superwoman, parce que les femmes payent un tribut tout aussi important que les hommes au burn-out, eh bien, ce mythe-là, il faut le détruire et donc accepter qu'il y a des signes annonciateurs. Et moi, je suis étonné de voir que des gens qui ont quand même des connaissances de minimum, ne prêtent pas attention. Je disais, mais regardez ces signes, vous les aviez depuis un mois, au moins, presque 2 mois. Est-ce que si vous aviez craché du sang tous les matins,
vous n'auriez pas été
consulté quand même quelqu'un en disant « Docteur, je crache du sang ces matins ». Mais là, on peut très bien se trimballer, si j'ose dire, avec des signes pas normaux, récents, inhabituels, sans que ça inquiète ni la personne elle-même, ni son entourage. Là, on est vraiment dans des problèmes aussi d'éducation à la santé, d'information.
Alors que, d'après ce que je comprends, si jamais le sujet est traité, et j'imagine qu'il y a des traitements, notamment avec les TCC, mais on peut faire en sorte que le burn-out n'arrive pas, et surtout, du coup, que le temps ensuite de récupération soit beaucoup plus court.
Oui, vous savez, à la question, j'étais le co-auteur du rapport de l'Académie de médecine sur le burn-out sorti en 2016, donc ça fait maintenant 5 ans, et on a regardé un petit peu toutes les études, elles sont nombreuses, sur le burn-out scientifique, et on s'est aperçu que les études sur le burn-out concluaient à quelque chose d'important, c'est que le burn-out est expliqué, disons, dans ses 2/3, par notre environnement de travail. C'est-à-dire les gens qui ont trop de travail, qui ont des pressions, qui n'arrivent plus à équilibrer leur vie personnelle, professionnelle, c'est équilibré par ça. Mais l'autre tiers, ça dépend de l'individu. Alors, je ne dis pas que la personne est responsable de mon burn-out, mais elle a une marge de manœuvre elle-même. Et ce tiers qui est dû à vous-même, eh bien, il est dû à deux grands types de facteurs. D'abord, des facteurs de personnalité. C'est pas les mêmes personnalités qui font un burn-out et les autres.
J'allais vous poser la question.
Et la deuxième, et voilà, une question très, très importante. Et l'autre partie de le contrôle qu'on peut avoir soi-même sur la prévention d'un burn-out, c'est-à-dire augmenter sa résistance, sa résilience, des thèmes que les gens. Alors, sur les personnalités, c'est sûr. Ce sont les personnalités.
Il y a un terrain d'une certaine manière favorable.
Oui. C'est bien établi. C'est malheureusement, si on peut dire, c'est le terrain de personnalités qui sont au contraire valorisées. C'est-à-dire là, genre, les gens qui sont très investis au boulot. C'est-à-dire les gens qui accordent une place extrêmement importante
à leur travail.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'études européennes concernant toutes ces thématiques, et en particulier les thématiques de la relation que les gens ont avec leur travail. Et il y a une question qui est posée régulièrement à des grands panels comme ça de salariés dans toute l'Union européenne, des panels de 50 000, 100 000, enfin des gros trucs. Et une question très simple, quelle place accordez-vous au travail dans votre vie? Et vous choisissez, chacun d'eux peut faire ce petit test, extrêmement importante, très importante, importante, plutôt importante, jusqu'à pas du tout importante. Et donc, vous vous situez. Eh bien, les Français sont les seuls à choisir aussi fréquemment la extrêmement importante. Les Allemands, les Suédois, les Hollandais choisissent plus facilement important ou très important. Donc, nous attribuons une place trop importante au travail. Et le surinvestissement au travail. Donc, la première chose que nous, on donne comme conseil, même en prévention dans les entreprises, c'est pas surinvestir le travail. C'est-à-dire, le travail est une chose importante, mais il y a d'autres choses dans la vie. Donc, surinvestir ailleurs. Et malheureusement, c'est surtout la maladie, évidemment, de gens qui ont des responsabilités importantes. J'ai jamais rencontré un éboueur ou une caissière de supermarché qui avait surinvesti son travail. Mais quand vous avez des professions intéressantes, je pense aussi, vous parlez d'un cas, je pense à une femme qui est professeure de médecine. Un peu visible en ce moment, parce que de temps en temps, elle passe à la télé, mais elle n'est pas en infectiologie. Et cette femme qui a un métier passionnant, elle est enseignante, chercheur, elle a des diplômes, elle fait des conférences, enfin, son métier la passionne, et je la comprends. C'est passionnant que vous êtes chercheur, enseignant en médecine avec un niveau international. Eh bien, elle avait surinvesti son travail. Et quand qu'elle a craqué, que j'ai commencé à parler un peu de sa vie, etc., elle me disait, il y a que mon travail qui m'intéressait. Elle me disait un truc affreux. Elle me disait, avec mon mari, pour nos, je sais plus quoi, 30 ans de mariage, on a été visiter Venise. Je dis, alors, je me suis emmerdé. J'avais qu'une hâte, c'est de me replonger dans mes livres et mes recherches et mes sciences. Donc, vous voyez, le seul intérêt de sa vie, c'était ça. Alors, évidemment, tout ça est très valorisant. Et malheureusement, dans les entreprises françaises, quand vous avez un cadre qui vous dit « mon boulot me passionne, je vais y consacrer toute mon énergie », les employeurs adorent ça. Sauf dans les nouvelles entreprises, vous savez, les entreprises modernes de la côte ouest américaine, les entreprises un petit peu récentes, et puis les jeunes générations sont inquiets quand quelqu'un vous dit « il n'y a que le travail ». Donc, ça, c'est surinvesti. Le perfectionnisme aussi. Le perfectionnisme sont des choses extrêmement dangereuses. Donc, il faut faire extrêmement attention à ces personnalités qui deviennent facilement ce qu'on appelle le workaholisme, l'addiction.
Donc, il y a vraiment une... Je vais vous poser la question aussi.
Mais
il
vous
y a
savez,
une addiction
quand on
travail.
A regardé... Moi, j'étais un peu pas partie prenante, mais j'ai suivi non seulement en tant que spectateur, mais en tant que conseil aussi, le cas de France Télécom. France Télécom, c'est les années 2008-2009, des suicides. Et c'est simplement en décembre 2019, donc il y a quelques mois seulement, auprès de 10 ans, que les dirigeants ont été condamnés. Et quand on a regardé les gens, alors il n'y a pas eu que les suicides à France Télécom, il y a eu aussi énormément de cas de burn-out. D'ailleurs, il y a 2 ou 3 salariés qui ont sorti des livres concernant un petit peu comment ils avaient craqué, etc. Eh bien, quand on regarde ces gens-là, soit qu'ils sont suicidés, soit qu'ils sont tombés en burn-out à la période de France Télécom, évidemment, il y avait l'environnement de travail qui était complètement pressurisant, pour lequel on poussait les gens quasiment à sentir mal pour qu'ils démissionnent. Enfin, il y avait une méthode de harcèlement managérial qui était reconnue et condamnable, puisque les dirigeants étaient condamnés. Mais on s'aperçoit que tous les gens qui ont vécu et qui ont été victimes de ce drame sont des gens qui n'étaient pas des glandeurs. C'était des gens qui étaient complètement investis. Et donc, on avait envie de leur dire, mais pour vous en tirer, désinvestissez. Il ne s'agit pas de désinvestir entièrement, parce qu'il s'agit d'investir correctement. Vous savez, moi, je fais souvent une analogie avec ces placements financiers. Si vous êtes de l'argent et que vous allez voir votre banquier, vous dites, où vais-je placer mon argent ? Et il va vous dire la première chose, diversifiez vos placements. Ne mettez pas tout sur le même placement. Évidemment, vous pouvez avoir un placement où vous mettez la majorité, mais assurez-vous d'avoir plein de placements. Eh bien, je dis, le travail, c'est pareil. La vie, c'est pareil. Diversifiez vos placements. Vous pouvez très bien décider que votre principal placement, ça va être votre travail, mais mettez un autre placement, n'importe quoi. Un hobby, les amis, la famille, etc. C'est fondamental. Et ça, c'est important. Et les autres aspects, un petit peu, de se protéger du burn-out, c'est évidemment de construire, j'allais dire, quelque chose qui vous augmente votre résistance. Alors, il y a des choses très simples. Il y a d'abord l'hygiène de vie, c'est évident. Là, je parle comme médecin, l'activité physique. Ce qui est très important aussi, c'est des techniques de déconnexion mentale. Et on sait bien que les pratiques de relaxation, de pleine conscience sont importantes. Et tout ça, c'est des choses extrêmement importantes. Et puis, cultiver les émotions positives, c'est-à-dire se faire plaisir, etc. Moi, je me souviens, quand j'étais aux États-Unis, j'avais rencontré un grand nom de la spécialiste des années 80, des Canadiennes, mais Canadiennes anglophones, de McGill University. Elle avait une formule en anglais qui était basée sur la formule britannique, parce que les Canadiens, ils ont plus le British English que l'American English. Elle disait « A pleasure a day keeps the stress away ». Et c'est construit sur la formule britannique « An apple a day keeps the doctor away ». Tous les Britanniques connaissent cette formule. Et elle disait « A pleasure a day keeps the stress away ». Et elle me disait, quand je voyais des cadres qui étaient surmenés, etc., je leur demandais d'ouvrir. Alors, c'était pas encore l'époque de l'Outlook, hein, c'était l'agenda papier qu'on ouvrait. Elle me disait « Montrez-moi vos plannings de la semaine prochaine ». Elle regardait, elle me dit « Mais je vois aucun plaisir programmé là-dedans ».
Moment de plaisir.
Elle me dit « Il faut programmer ».
Hein? Détente.
Programmer simplement, j'écoute 3 minutes la quatrième de Shostakovich, ou je lis un truc, ou je vais prendre un café dehors au soleil, ou j'appelle ma petite fille. C'est-à-dire, et elle disait, cette programmation est aussi importante que conseil d'administration de lundi 14h30, etc. Donc, vous voyez, il y a tout ça qui se protège. Et vous savez, quand on parle du burn-out, comme on dit, comment prendre en charge le burn-out? Moi, je répète inlassablement, il n'y a qu'une chose, prévention, 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 prévention. Quand les gens craquent, je vous ai dit.
Ouais, ça met du temps après.
Enfin, quand c'est un vrai burn-out, parce que, vous savez, la terminologie du burn-out, c'est que c'était devenu un mot. Alors, évidemment, quand on est psychiatre et médecin, on est content que le concept ait envahi le grand public. Il a conscience d'une réalité. Parce qu'il y a tellement de maladies dont le grand public n'a pas conscience et qui font des ravages. Mais là, tout le monde connaît ce mot. Le problème, c'est que ce terme est tellement populaire qu'il est employé par tout le monde. Les psychiatres aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent qu'il y a 20 ans ou 10 ans, les gens arrivaient en disant « Docteur, je viens vous voir parce que je dois être quand même un peu dépressif, je dois sans doute avoir une dépression. » Ils vous disent plus ça maintenant. Ils disent « Docteur, je viens vous voir, j'ai un burn-out. » C'est-à-dire que la majorité des cas que les gens ont en allant voir un médecin, c'est en fait des dépressions.
Oui, ce n'est pas réellement des burn-out.
Non, et qu'on n'a des fois rien à voir avec le travail. Rien à voir avec le travail. On sait bien que la dépression est un phénomène très complexe aussi, mais qui n'est pas lié simplement à l'environnement de travail. Il y a des gens qui sont dans la misère la plus complète. Moi, je voyais des reportages sur des Syriens en France actuellement. C'est dramatique. Bon, je ne vais pas dire qu'ils sont dans le bonheur, mais ils ne sont pas en dépression.
Ils peuvent, ouais.
Et puis, on a tous dans nos relations des gens qui, soi-disant, ont tout pour être heureux et qui se dépriment. Donc, le lien entre un environnement adverse et difficile et la dépression n'est pas clair, même si c'est un des facteurs, mais pas le seul. Mais le burn-out, les gens veulent toujours trouver une explication et donc, ils trouvent que c'est le burn-out. Et puis, vous savez, l'image qu'a le burn-out et la dépression sont différentes. La dépression est encore vécue comme extrêmement stigmatisant. Dire « je suis déprimé », c'est presque dire « je suis fragile, je suis une petite chose, j'ai craqué », etc. Alors que le burn-out est une image, j'ose pas utiliser le mot, mais une image de revendication. Regardez, un peu comme un guerrier qui reviendrait avec un bras en moins. Regardez, j'ai perdu mon bras au combat. C'est-à-dire que cette espèce de victimisation de sauter. Et le burn-out est plus valorisant socialement, puisque c'est pas vous le responsable, c'est le boulot, que la dépression, que ça serait vous qui est responsable. Donc, voyez cette terminologie. Et puis aussi, le problème aussi, c'est que les gens ont tendance à confondre ce que c'est qu'une vraie maladie, un burn-out, une dépression, et simplement un mal-être.
Un épisode passager.
Voilà, quand on a un blues, etc., quand on est fatigué, etc. Vous savez, le burn-out, quand on est simplement un peu les chaussettes un peu de blues ou un peu de le moral dans les chaussettes, comme on dit, des fois, une semaine de vacances, ce truc vous remonte, mais un burn-out, c'est pas remonté.
Je trouve ça absolument passionnant, Patrick, et je vois que le temps passe.
Allons-y.
Mais j'ai quand même pas du tout, au contraire, je veux tout garder. Mais j'ai quand même des questions parce que j'ai beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui sont des managers ou des dirigeants, qui soit eux-mêmes, je pense, peuvent souffrir d'un potentiel burn-out ou en tout cas d'un mal-être et pas forcément savoir faire la différence d'ailleurs. Et ils peuvent aussi avoir dans leurs équipes, évidemment, des personnes. Et en plus, c'est pas forcément mal intentionné de leur part. C'est-à-dire que c'est pas, comme vous le dites justement, forcément dû à une pression de leur part. Parfois, c'est aussi la personne qui a un rôle là-dedans. Et je voulais savoir, quand on est dans ce genre de situation, pour soi ou pour quelqu'un d'autre, bon, déjà, il faut avoir le recul de s'en rendre compte. Mais si jamais on a un doute, qu'est-ce que vous conseillerez de faire? Quel conseil vous donneriez pratique à un manager, vous qui les conseillez justement, pour faire cette prévention? Est-ce qu'il faut dire à cette personne de partir plus en vacances? Il faut lui dire d'avoir... Enfin, concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on est soi-même ou quelqu'un en face de soi, où on sent qu'elle a plus cette énergie, qu'elle est fatiguée, pas forcément encore à un niveau de burn-out, mais qui pourrait y mener?
Je vais d'abord vous répondre en donnant des chiffres qui sont inquiétants pour la France. Dans les grandes enquêtes européennes, à la question toute simple, votre manager est-il source de stress pour vous? 60% des salariés français répondent oui, et 10% des salariés norvégiens répondent oui. Donc nous avons un vrai problème de management.
Je pense qu'on n'apprend pas vraiment, je me permets de le dire, puisque moi-même, j'ai été très mauvaise manager par le passé et j'ai appris à l'être à la dure, mais de manière délibérée parce que je m'en rendais compte. Et je pense que beaucoup de managers ne font jamais cet effort.
Vous avez raison, les explications sont multiples. J'en vois plusieurs. La première chose, vous l'avez souligné, c'est qu'on n'est absolument pas formé. Dans les écoles dites de management, on apprend tout, sauf le management. On apprend le marketing, la finance, la stratégie, mais apprendre à gérer de l'humain, on ne l'apprend pas. Moi, je donne des cours à Sciences Po Paris, où je travaille là-dessus. Et c'est assez récemment que de cette belle école française de futurs managers a intégré ce genre de choses. Dans les pays d'Europe du Nord et au Québec, par exemple, j'ai un ami qui est le titulaire de la chaire du management de la santé au travail. C'est-à-dire, depuis 20 ans, il y a une chaire à l'Université Laval qui s'occupe de ça. Donc, il n'y a pas de formation de manager. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, qui est un aspect très culturel. D'autres relations. La relation des Français avec le bien-être ou la souffrance est suspecte. C'est-à-dire que nous avons sans doute une culture judéo-chrétienne où nous pensons qu'un beau travail s'effectue dans la douleur. Un salarié heureux, un manager heureux, c'est suspect. Au contraire, s'il arrive soucieux le matin, inquiet, tendu, stressé, on dit « Ah, il est investi ». Mais arriver avec un grand sourire est suspect. Donc, nous, à la différence, nous avons une vision très rédemptrice de la souffrance. Et ça se voit aussi dans le travail. Et l'objectif de rendre les gens heureux au travail n'est pas un objectif français. Le well-being des pays d'Europe du Nord n'existe pas. Ça, c'est la première chose. Et donc, cette espèce, en effet, deuxième chose, de non-formation. Alors, évidemment, les choses changent. Il y a un concept. Alors, les conseils que je peux donner aux managers, c'est des conseils qui maintenant apparaissent de plus en plus. C'est développer des formes de management qui sont maintenant reconnues comme étant extrêmement importantes à la fois pour l'efficacité des équipes, mais également pour leur bien-être, c'est-à-dire pour les mettre à des niveaux de stress, j'allais dire, corrects, satisfaisants. Je vous ai déjà dit que le stress était inévitable, zéro stress, ça n'existe pas. Ce concept est intéressant parce qu'il prend plein de noms, le care management, le management bienveillant, mais j'aime bien la terminologie utilisée dans les pays d'Europe du Nord, c'est le healthy management, le management sain. C'est construit à partir de la comparaison avec la nourriture saine, la healthy food. La healthy food, c'est une nourriture qui vous nourrit, bien sûr, et vous apporte tout ce qu'il faut pour vivre, mais en même temps, elle est bonne pour votre santé. Eh bien, de même qu'il y a une junk food, il y a un junk management, c'est-à-dire qui manage les équipes, mais qui leur fait du mal. Et le healthy management, c'est un management qui est basé, justement, sur un management efficace, faire en sorte que ces équipes atteignent des objectifs, mais en même temps, protègent leur santé. Et ce management a des formes relativement simples, qu'on peut citer comme ça rapidement. C'est d'abord une présence très, très proche et soutenante des salariés. C'est, comment dirais-je, une écoute extrêmement bienveillante, c'est-à-dire faire en sorte que les salariés puissent exprimer leur malaise. Moi, j'ai tellement vu des responsables me dire, si, il faut que je m'occupe en plus des états d'âme des gens. Je dis des états d'âme et les gens des états d'âme, etc. Et vous savez, là encore, dans les sondages européens, nous sommes le pays le plus mal placé à la question. En cas de difficulté de mal-être, est-ce que ça serait facile d'en parler à votre supérieur? Nous sommes le pays où la réponse est la plus faible. Les pays d'Europe du Nord, du Danemark, ou même de la Hollande, ou de l'Allemagne vous disent, dans leur grande majorité, oui. Donc, en France, la difficulté de parler de ça. On est aussi dans un concept d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire d'être dans l'empathie, écouter. On est dans la reconnaissance. La reconnaissance au travail, dans toutes les études sur le malaise des salariés et sur leur stress et sur les risques psychosociaux, puisqu'on est dans ce domaine, c'est-à-dire de prévention des risques pour que les gens craquent au boulot mentalement, eh bien, la reconnaissance est très faiblement appliquée. Là encore, dans les enquêtes européennes, avez-vous le sentiment d'être reconnu au travail? Les gens répondent très mal en France par rapport à d'autres pays. La reconnaissance, évidemment, passer autant de temps à dire ce qui va que ce qui ne va pas. Et malheureusement, dès l'école, c'est l'inverse. Vous savez, moi, j'ai une amie qui est manager et qui manage de cette façon-là ses équipes, mais me dit, vous savez pourquoi? Parce que moi, je suis finlandaise, j'ai vu la différence dans les écoles finlandaises où étaient mes enfants et maintenant les écoles françaises. Dans les écoles finlandaises, on passe son temps à dire tout ce qui va bien. Et de temps en temps, on dit, là, t'as fait une faute. Alors que c'est l'inverse, c'est-à-dire que d'être focalisé sur le négatif, d'être plutôt la critique, etc. Et comme par hasard, c'est intéressant les écoles finlandaises, parce que dans un autre domaine que le travail, ce sont les élèves qui sont les moins stressés d'Europe. Nos élèves en France sont extrêmement stressés. Et moi, j'ai des collègues psychiatres qui s'occupent... moi, je m'occupe du stress au travail, mais ils s'occupent du stress de l'école. Et nous avons des élèves extrêmement stressés. Et en plus, comme vous le savez sans doute, aux grandes enquêtes PISA, nous n'avons pas les meilleurs résultats. Donc, nous perdons sur les deux tableaux. Donc, ce que j'ai envie de dire aux managers, c'est développer des modes de management qui sont des managements beaucoup plus sains pour les gens et efficaces. Les gens le réclament parce que les gens veulent être heureux. Les gens veulent pas souffrir. Pendant longtemps au travail, les gens savaient qu'au travail, on n'était pas là pour s'amuser. Maintenant, les gens veulent plus ça. Et surtout les jeunes générations, ils veulent plus ça. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose aussi, c'est qu'il faut que les managers soient extrêmement attentifs à tous les facteurs de stress. Parce que aujourd'hui, on sait bien pourquoi les gens craquent. C'est pas trop de boulot uniquement. Il y a des gens qui travaillent 35 heures et qui vont craquer au boulot. Et d'autres qui travaillent 50 heures et qui vont pas craquer. Donc, il y a en effet toute une série de facteurs. Par exemple, si vous préservez la vie personnelle et professionnelle des gens, c'est important. Si, par exemple, vous faites en sorte que les gens ont une diversité des tâches, n'ont pas toujours les mêmes tâches monotones et répétitives. Si les gens comprennent qu'il y a un sens à ce qu'ils font, c'est-à-dire le sens que tout le monde a une activité. On a bien vu pendant les confinements à quel point même un éboueur, son travail était sans doute aussi important que l'énarque directeur de cabinet d'un ministre. Et donc, d'expliquer clairement le sens et la valeur qu'apporte chacun au travail. Donc il y a aussi construire cet environnement. Et le rôle du manager, c'est de faire en sorte que le travail représente quelque chose qui permet de s'épanouir, de la diversité, de la reconnaissance, de préserver sa vie personnelle, etc. Et puis la troisième chose, donc premièrement, manager correctement. Deuxièmement, faire attention à tous les facteurs de stress pour les réduire. Et troisièmement, évidemment, faire extrêmement attention aux gens en difficulté et très rapidement aller les voir, les conseiller pour les orienter, parce que le rôle du manager s'arrête là maintenant. Le manager, c'est pas le psy, c'est pas le médecin, mais il faut qu'il permette aux salariés à ce moment-là d'être orientés, d'aller parler. Beaucoup d'entreprises ont mis des numéros verts pour les salariés en difficulté, des services de santé au travail ou même à l'extérieur d'aller consulter, etc. Mais le manager, en fait, vous savez, il y a un grand rapport qui a été fait il y a 10 ans maintenant, qui a été fait par 3 personnes, dont notre ancienne ministre du Travail, c'était Madame Pénicaud, qui était à l'époque DRH de Danone, et par Monsieur Lachmann, qui était le président de Schneider, et Larose, qui est le vice-président du CESE, un syndicaliste CGTiste, donc c'est un trio intéressant. Et ce rapport qui a été fait pour le premier ministre de l'époque, qui était François Fillon, s'appelait Bien-être et efficacité au travail. Et ce rapport concluait d'une chose très forte, le manager est le premier acteur de santé au travail. C'est lui le premier acteur. C'est-à-dire que lui, la manière dont il manage, dont il a des relations, dans la manière dont il demande à ses collaborateurs, dont il communique avec eux, fait en sorte qu'il peut construire leur bien-être ou au contraire leur mal-être. Il faut que le manager comprenne que son rôle n'est pas simplement un rôle de conduire des équipes vers des objectifs qu'il, bien sûr, c'est son rôle. Mais il a un deuxième rôle, il a deux pieds. Le deuxième rôle, c'est de construire le bien-être de ces, de, en tout cas, la non-détresse, à défaut du bien-être, la non-détresse salariée. Et je veux dire, ces deux pieds avancent ensemble. Vous savez, les pays d'Europe du Nord, depuis longtemps, ont compris que la performance et le bien-être des équipes étaient liés. Et moi, je dis souvent, là, je faisais encore une conférence il n'y a pas très longtemps auprès de dirigeants, je leur disais, mais comment aujourd'hui peut-on imaginer que c'est avec des salariés mal dans leur peau, hyper stressés, au bord de l'épuisement, que votre entreprise va s'en sortir avec tous les challenges qu'elle est auxquels elle est confrontée? C'est impossible.
Surtout sur le long terme, c'est sûr. Patrick, c'est passionnant. J'ai en réalité encore plein de questions pour vous. J'aimerais peut-être enchaîner sur les questions que j'aime beaucoup poser à la fin de l'épisode, qui sont des questions un peu personnelles, je vous l'avoue. Le crible du gratin. Il y en a une que j'aime bien, c'est est-ce que vous avez vécu un grand échec? Un échec dont vous pourriez me parler et surtout les enseignements que vous en avez tirés, s'il y a quelque chose qui vous a marqué.
Vous savez, les médecins et peut-être aussi les psychiatres encore plus, parce que moi, j'ai souvent été jaloux de mes confrères cardiologues parce que la cardiologie fait tellement des miracles aujourd'hui et d'autres disciplines. Mais enfin, je m'aperçois avec, par exemple, l'infectiologie qu'il n'y a pas que des miracles partout. Mais tous les médecins ont été confrontés à des échecs et à des remises en question. Moi, ce qui m'a peut-être le plus marqué, et puisque je m'en souviens encore, et ça alimente encore ma réflexion au quotidien, c'est un jeune garçon, un jeune étudiant, une vingtaine d'années, il y a fort longtemps, j'ai commencé juste ma psychiatrie, c'est début des années 80, et il avait des idées assez triste, un peu suicidaire. Il avait une rupture amoureuse. En plus, il était mal dans sa peau. Il avait un physique un peu ingrat. Et ses parents l'avaient accompagné, que je les avais vus séparément, bien sûr. Et ses parents m'ont dit, mais il faut le garder, il faut l'enfermer. Enfin, il faut le garder parce qu'il va faire une bêtise. Je discute avec lui. Et il me dit, non, je veux absolument pas. Je voyais que c'était de l'horreur pour lui, l'idée d'être hospitalisé sous contrainte, parce que c'était comme ça. Et j'ai pris la décision, en effet, de le laisser repartir. Il m'a dit, mais non, je ferai pas de bêtises. Et malheureusement, il en a fait une. Et ça m'a profondément bouleversé, parce que c'était un moment même où je me suis dit, mais ça va être ça ma carrière en permanence, c'est-à-dire de prendre un risque pour respecter une liberté de quelqu'un, de pas accroître à sa détresse une autre détresse qui est celle de le retenir hospitalisé, ou le choix de prendre le risque, etc. J'ai dépassé un petit peu ça. Ça m'a appris deux choses. La première chose, c'est qu'on n'est pas infaillible, c'est qu'on n'est pas Dieu le Père, et que malheureusement, les médecins, s'ils prennent pas un peu de recul par rapport à tout ça. Et la deuxième chose, c'est peut-être un peu dur à dire, mais que la liberté des gens est importante. Et que, évidemment, si j'avais perçu que le risque était là, j'aurais pas fait comme ça. Mais finalement, je me dis, la liberté, c'est important. Voilà, que respecter ça. Mais je peux vous assurer que tout au long de ma carrière, cette espèce d'échec, parce que, évidemment, je me dis parfois que j'aurais peut-être pu éviter. Peut-être, j'en suis pas sûr. Et c'est vraiment traumatisant. Et je peux vous dire qu'une expérience comme ça, surtout quand vous l'avez étant un jeune psychiatre, ça remet en question même le choix que vous avez fait. Hein. Vous dire est-ce que je suis prêt à affronter ce genre de situation? Voilà, c'est très compliqué. Enfin voilà. Donc alors je sais pas si ce genre de situation vous grandit, améliore votre pratique, etc. Mais en tout cas, ça vous pousse à vous poser des questions qui dépassent ce qu'il y a dans les manuels de psychiatrie, la science médicale, le traitement des dépressions. Ça interpelle au plus profond de vous-même. Voilà, parce que finalement, la psychiatrie, comme toute discipline médicale et comme toute relation à l'autre, c'est quand même deux êtres humains qui échangent et qui s'influencent l'un l'autre.
Merci Patrick pour ce partage. C'était, je dois dire, très touchant et je vous remercie d'avoir accepté de le partager. Une autre question que je voulais vous poser, c'est s'il y avait quelque chose qui était à refaire dans votre vie, dans votre carrière, qu'est-ce que vous referiez aujourd'hui différemment? Les questions ne sont pas faciles. Oui, c'est un peu moi qui suis de l'autre côté.
c'est pas le genre de question que je me poserais maintenant, je sais pas. Je suis un psychiatre, mais en même temps, j'aime bien avancer, je suis assez actif dans ma vie, dans tout ce que j'ai fait. Et c'est peut-être pour ça que la psychanalyse, je l'ai un peu abandonnée, parce que L'œil dans le rétroviseur, je sais que quand on conduit une voiture, il faut avoir l'œil dans le rétroviseur, mais je trouve qu'il vaut mieux avoir l'œil quand même devant que... Et donc, j'en suis pas encore là. C'est peut-être un peu prétentieux, mais... Non, je suis assez... C'est un peu prétentieux, mais je suis assez content d'avoir déchiffré un champ qui n'était pas très abordé. C'est le champ du travail. Je pense que ce que je regrette beaucoup aujourd'hui, alors c'est pas des regrets personnels, c'est des regrets politiques et autres, mais c'est que la question du travail est une question importante aujourd'hui, mais qu'elle est abordée uniquement par le problème de l'emploi, c'est-à-dire en avoir ou pas. Et que les pouvoirs publics, à mon avis, font une grave erreur, à savoir que finalement, ne pas se poser la question de ce qu'on a travail, et qui peuvent en souffrir quand même, voilà. Et pas simplement par peur de le perdre, parce que ce qui est quand même intéressant aujourd'hui, enfin intéressant, ce qui est à noter aujourd'hui, c'est que le problème de gens qui souffrent au travail est de plus en plus important, les chiffres le montrent, Santé publique France, les études européennes, il n'y a pas qu'en France, mais la France surtout, ça touche aussi des gens qui n'ont pas de menace sur l'emploi. Par exemple, les gens dans le secteur public, les employés de la Poste, ils n'ont pas à craindre pour leur emploi. Alors, il y a plein d'entreprises où, évidemment, avec la crise, ils peuvent très bien perdre leur emploi. Donc, la souffrance n'est pas que l'apanage des gens sur lesquels pèse une menace de l'emploi. Donc, réduire la question du travail à l'emploi me semble réducteur, même si c'est peut-être la première priorité, je suis d'accord. Mais je trouve que c'est ça. Donc, mon regret, c'est plutôt ça. C'est peut-être que j'aurais aimé ça, c'est m'investir un peu plus politiquement, parce que je m'aperçois que beaucoup de questions qui m'interpellent au niveau de ma pratique de psychiatre ou d'intervenant d'entreprise en amont pour construire ce que j'appelle les environnements de travail sains, c'est-à-dire des environnements de travail, des organisations, des managements qui font que les gens sont plutôt bien plutôt que mal. Je me suis dit que peut-être c'était plus au niveau politique. Bon, mais est-ce que les politiques ont autant d'influence que ça? J'en suis pas sûr non plus.
Ouais,
et puis il faut avoir envie d'autre chose.
Comme vous disiez, voilà. Ça peut venir aussi
mais c'est
des managers.
C'est peut-être quelque chose que je regrette. Non pas. Les politiques vous le disent quand ils sont un peu sincères. ils vous disent qu'ils ont la possibilité, parfois très réduite, de faire passer des idées. Et je pense que la problématique qui est celle sur laquelle je travaille est une problématique pas simplement de l'humain, mais aussi de politique. C'est quelque chose que je regrette. Et vous savez, c'est peut-être aussi parce que on est un pays particulier, la France, un pays qui a une histoire, une grandeur. On va fêter le bicentenaire Napoléon, donc la France et tout ça. Et moi, je vois des pays plus petits. Je connais assez bien le Danemark, qui est un pays intéressant et un petit pays. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, c'est bon, on est un petit pays. Est-ce que c'est nous qui allons éclairer le monde? Même s'ils ont été des grands pays, hein, les Vikings ont dominé quand même à une certaine époque l'Europe, mais bon, aujourd'hui leur rôle est quand même un... Et ils me disaient finalement quel rôle d'un gouvernement comme le gouvernement danois vis-à-vis de son peuple, et ils disaient tout simplement, c'est peut-être rendre les gens heureux. J'ai jamais entendu un ministre dire
ça,
c'est,
ouais.
C'est le PIB, la croissance,
la grandeur,
le message, l'universalité, les droits de l'homme, en sachant bien que c'est du discours souvent d'ailleurs. Mais je veux dire, j'ai jamais entendu un homme politique dire ma mission, c'est de faire que mon peuple soit heureux. Enfin, je veux dire, parce que peut-être que ça fait un peu bisounours, ça fait un peu débile, un peu bébête, mais moi, je me serais battu pour ces idées, en disant, après tout, que les gens soient heureux. Et on sait bien que le bonheur des gens, évidemment, faut un minimum pour vivre, mais il y a tellement de gens qui... Vous savez, il y a une chose qui m'a toujours frappé, quand j'allais... Des fois, j'avais des réunions très tôt à la Défense avec des grandes entreprises, etc. Et je sortais du métro. Moi, j'habite le centre, donc la ligne 1 me débarque tout de suite à la Défense, là. Et dès 7h, des fois, j'avais des réunions à 7h30. Il y a des entreprises qui commencent très tôt, hein, l'industrie. Hein. Et 7h30, 8h. Et je voyais, c'était très frappant, je voyais les femmes de ménage qui sortaient souvent des Martiniquais, des Blacks, comme ça, en rigolant, tu vois, chahutaient, comme ça, rentraient chez elles. Et puis je voyais des cadres sup qui avaient sans doute un revenu extraordinaire qui arrivait à la tête comme ça. Et je disais, c'est quand même étonnant. Il y a une population qui rigole, qui a l'air heureuse, et une population qui a l'air mal dans sa peau. Et je me disais quand même, il y a quand même des réflexions sociologiques et culturelles à construire. Et vous savez, cette notion de bonheur, je ne dis pas de bonheur, mais c'est une réflexion même, comme vous le savez sans doute, de grands organismes comme le CDE, le Bonheur des Nations, le rapport Stiglitz. Et malheureusement, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, c'est pas la priorité. Alors peut-être que la crise, les maladies font que l'humain, quoi qu'il en coûte, reprend des fois le pas de l'économie, mais je pense que c'est mon regret d'avoir pu avoir plus de discours politiques, m'investir là-dedans et avec d'autres. Je suis pas le seul qui a pensé ça.
Encore une question pour vous, Patrick. Une maxime, des mots de sagesse qui vous marquent et que vous pourriez partager avec nous.
Il y en a beaucoup. Tout à l'heure, il y a quelqu'un que j'aime bien. Parce que d'abord, il est l'ancien que des Lumières, et c'est vrai que pour moi, je suis un scientifique. Mon orientation en psychiatrie fait que j'ai délaissé la psychiatrie plus littéraire, philosophique pour psychiatrie scientifique. C'est Voltaire, qui est un personnage extraordinaire, Candide évidemment, tous ces trucs-là. Et il y a une formule qu'on commence à voir. D'abord, elle m'amuse parce que moi, elle est la mienne depuis fort longtemps, mais maintenant, on la voit sur les t-shirts, les trucs comme ça. C'est cette formule de Voltaire qui dit « J'ai décidé d'être heureux, car c'est bon pour la santé. » J'aime bien les deux aspects de cette formule. « J'ai décidé. » C'est-à-dire qu'un jour, faut dire « J'ai décidé. » Alors, je suis pas naïf, parce qu'il y a plein de gens pour lesquels ce choix ne peut pas se faire. Mais moi, vous savez, les suicides au travail, je me suis toujours posé la question, elle n'est pas résolue dans ma tête. Comment peut-on se suicider au travail? Encore, je comprends qu'on puisse se suicider en prison. Mais on peut s'échapper du travail. Alors évidemment, il y a l'emprise, les psychologues savent bien, comme les femmes battues qui restent avec leur mari, il y a cette espèce d'emprise, donc je ne suis pas naïf en disant ça. Mais un jour, on peut décider, alors certains ont plus de marge de manœuvre, mais quand même prendre cette décision, je suis heureux. Et puis là aussi, c'est intéressant, évidemment, c'est peut-être mon rôle de médecin, ma casquette de médecin qui revient à ce que les gens heureux ont moins de maladies. Vous savez, il y a tout un courant de la psychologie qu'on appelle la psychologie positive qui s'intéresse à ce qui va bien. Et pendant longtemps, la médecine s'intéressait à savoir mais pourquoi vous attrapez le VIH, pourquoi vous faites un infarctus, pourquoi vous faites une dépression. Enfin, c'est intéressant ça. Mais maintenant, on se dit, c'est intéressant de savoir pourquoi il y a des gens qui vivent centenaires. Pourquoi il y a des gens qui n'ont jamais de maladie? Pourquoi tout ça? Et par exemple, la longévité, moi je me souviens de cette héroïne qui maintenant est un peu ancienne, Madame Calment, qui est notre centenaire, une des premières centenaires qu'on avait visitées dans son EHPAD à l'époque où il n'y avait pas la Covid. Et on l'interviewait, on lui dit, elle disait en plaisanterie, parce qu'elle avait beaucoup d'humour, elle disait, j'ai toujours pris mon petit doigt de Porto le soir. Alors évidemment, les tenants de l'alcool et des ravages de l'alcool, ils ne devaient pas être contents, prends mon petit Porto. Alors, évidemment, elle ne fumait pas 3 paquets de cigarettes par jour, mais elle ajoutait une phrase formidable. J'ai toujours pris la vie du bon côté. Et ça, en tant que psychiatre, je comprends l'influence des environnements. Je comprends qu'il y a plein de choses aujourd'hui dont on a de moins en moins le contrôle. Que la liberté individuelle est une notion qui a de plus en plus de faiblesses, non pas simplement au niveau politique, restriction des libertés, lois d'urgence, etc., mais simplement parce que la société est organisée de telle façon que nos marges de manœuvre sont claires. Mais il faut les chercher et ça se construit, voilà, c'est tout. Et cette phrase de Voltaire, qui est pour moi un grand monsieur, il a dit plein de choses intéressantes, Voltaire, et je pense que le siècle des Lumières doit importer. Moi, une des choses, enfin, les Lumières, pour moi, m'éclairent encore beaucoup, dans une époque où l'obscurantisme revient, c'est-à-dire que les opinions étayées sur pas grand-chose, vous savez, quand on lit, aux États-Unis c'est encore pire, il y a combien de gens qui pensent que la Terre est plate, il y a combien de gens qui pensent ça, c'est-à-dire, et les Lumières ont quand même, est une révolution, et c'est la France qui a porté cette réflexion d'une approche, j'allais dire, rationnelle de l'univers et de l'homme, voilà.
Discernement, mais pas de cynisme.
Discernement, mais pas de cynisme. Mais Voltaire a dit plein de choses formidables. Il disait aussi, je ne connais pas par cœur, il disait Comment peut-on souscrire aussi facilement à des opinions et aussi difficilement aux faits? Enfin, de plein de trucs qu'il a fait. Enfin, faut dire. Mais il n'y a pas que Voltaire. Il y a tout Diderot, enfin, toute l'équipe, Alembert, toute l'équipe des Lumières. Et je pense que ça doit inspirer beaucoup. On m'accuse beaucoup de scientiste parce que, même s'il y a beaucoup de débats sur la science qui a des limites, comme disait Churchill, vous avez de la démocratie, à savoir, c'est à défaut d'autre chose. Je pense que la science, c'est la pire des choses à défaut de toute autre chose. C'est encore ça sur ce qu'il faut s'appuyer.
Ma dernière question, Patrick, c'est est-ce qu'il y a un livre qui, pareil, vous a particulièrement marqué, qui peut-être a fait changer des opinions en vous?
Alors c'est assez intéressant parce que c'est un livre que j'avais lu, je suppose comme plein de gens étant jeune, qui m'avait beaucoup marqué et puis que j'ai relu à la fin de l'année 2019 parce que j'avais lu comme ça dans la presse qu'il y avait une nouvelle traduction française de grande qualité. C'est La montagne magique de Thomas Mann. Et la première traduction de la langue allemande, parce que Thomas Mann est un grand écrivain allemand, c'est sans doute un des plus importants du XXe siècle. Et La Botague Magique, j'ai commencé à la lire en octobre, à la relire dans sa nouvelle version, puisque une nouvelle traduction de très grande qualité, enfin toute la presse encensait cette nouvelle traduction. L'ancienne était assez médiocre, je m'en souviens plus, mais enfin. Et je commence à la lire. Ça relate l'histoire d'un jeune Allemand, Hans Castorp, qui visite son cousin dans un sanatorium à Davos. Et il entre dans un univers de gens touchés par un virus. Enfin, pas un virus, un microbe, parce que c'est une bactérie, c'est la tuberculose. Un sanatorium. Et il entre dans un univers de maladie, de torpeur, de silence, de contemplation d'un truc au ralenti. Et c'est intéressant parce que j'ai commencé à lire ça, et par petits bouts, c'est un vrai pavé, puis je lis pas que ça. Et j'ai prolongé ma lecture pendant le premier confinement. Et j'ai vu beaucoup de similitudes avec cette espèce de relation au temps qui s'arrête, à la maladie qui rôde. Évidemment, c'est pas la même, c'est la tuberculose qui était vraiment, qui faisait des ravages à l'époque. La phtisie, comme on disait. Et ce livre m'a passionné parce que c'est une relation avec la maladie quand on est médecin. C'est une relation avec la fascination, ce qui est un peu inquiétant, la fascination de la mort, de la vie. Et c'est écrit avec beaucoup d'humour des fois, beaucoup, c'est une force de littérature. Et puis il y a des personnages qui s'affrontent. C'est vraiment un personnage qui représente les lumières, la connaissance, la raison. Et puis un autre qui est plus dans les choses plus irrationnelles, le vécu, la sensation. Et j'ai relu avec plus grand plaisir cet ouvrage qui est pour moi, enfin, qui m'a le plus interpellé. Voilà. Peut-être en tant que médecin et en tant que de relation dans une période, et j'ai trouvé que vraiment, ce qui est décrit, c'est ce que beaucoup de Français ont connu pendant le confinement, c'est-à-dire cette espèce de peur de ce qu'il y a, puis en même temps de ralentissement, de torpeur. Voilà, La montagne magique
de Thomas Mann. Ça sera très mis dans les
ouvrage.
Notes. Très bel ouvrage. Patrick, je vous remercie mille fois pour tout ce que vous avez pu nous partager avec nous. Si jamais on veut continuer la discussion, si jamais on veut vous suivre sur les réseaux sociaux, éventuellement pouvoir vous contacter dans le cadre de conférences, etc., parce que j'ai beaucoup d'auditeurs du Gratin qui travaillent dans des grands groupes et qui seraient peut-être intéressés, où est-ce qu'on peut le faire?
Je suis sur LinkedIn, mais je n'ai pas d'autres réseaux sociaux.
Très bien, je mettrai le lien dans ce cas vers votre LinkedIn.
D'accord.
Et puis je vous remercie mille fois pour votre
D'accord.
temps.
D'accord. Mais oui, bien sûr, ça me fait plaisir d'avoir... Je trouve que les réseaux sociaux sont une chose formidable en ce moment, je trouve, hein, personnellement. Enfin, on le critique beaucoup, mais je trouve que dans une société où les relations humaines sont un peu détériorées, elles peuvent reconstruire, mais attention, elles peuvent le reconstruire mal. Mais pourquoi pas, LinkedIn, ouais.
En tout cas, pas dans l'excès.
Vous savez, il y a un adage médical, comme pour ce qui s'applique à LinkedIn, qui s'applique au stress, qui s'applique à tout, c'est la dose qui fait le poison. Et les médecins connaissent par cœur cet adage. C'est la dose qui fait le poison. comme tout.
Bien, messieurs, dames, comme
c'est
pour
pas
tout.
Le poison n'est pas dans la substance elle-même, c'est la dose qui fait le poison. Et ça, c'est, je crois que c'est Hippocrate qui le disait. Voilà aussi, j'aurais pu citer Hippocrate. Bon, enfin, ça fait un peu vieillot. Déjà, Thomas Mann, les jeunes générations me disent, oh là là, ce vieux psychiatre qui nous cite des œuvres d'il y a un siècle.
Pas du tout.
Que ça a été quasiment écrit maintenant, parce que je crois qu'il a terminé La Montagne Magique en 1922 ou 23, donc ça fait juste un siècle. Donc vraiment, donner des références, je me suis dit, il faut peut-être donner des références de la dernière décennie. Et encore, la dernière décennie, c'est vieillot.
C'est parfait, c'est absolument parfait, et en plus de circonstances.
Oui, merci. J'ai trouvé que le hasard a fait en effet que j'ai commencé à lire La Montagne Magique, à relire La Montagne Magique, j'avais complètement oublié. À un moment, on ne parlait pas de ça, et d'un seul coup, je me disais, mais c'est un livre d'actualité. En tout cas.
Merci Patrick.
Merci.
Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, bah c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du6gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram, qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc, sous le pseudo Pauline Léniaud, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi, et je sais que c'est pénible à faire, mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute et avoir des notes, en fait, permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter Le Gratin, à faire partie de cette communauté, bah c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes. C'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes. Donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand, grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.